Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Benoît XVI a visité un centre d'accueil pour les personnes âgées, un geste d'affection, de proximité et de partage. Le pape a prononcé un discours aux accents très personnels. Il connaît bien les difficultés, les problèmes et les limites liées au grand âge, compte rendu dès le début de ce magazine. Jean-Paul Ier, un pape méconnu, 100 ans après sa naissance, au-delà des fantasmes qui entourent encore sa mort précoce, son envergure intellectuelle suscite la curiosité. Coup de projecteur dans cette émission. Nous parlerons également de l'embarras de l'Église argentine. Certains de ses membres ont été accusés de connivence avec la dictature. Et nous évoquerons le débat en Belgique autour de la proposition d'enseigner le Coran dans les écoles catholiques. À l'occasion de l'année européenne de la vieillesse active et de la solidarité entre les générations, le pape a visité ce lundi matin une maison d'accueil de personnes âgées tenue par la communauté catholique italienne Sant'Egidio. Située sur la colline du Janicule à Rome, cet établissement est innovant. Tout est conçu comme une maison familiale pour mettre en valeur les personnes âgées et favoriser leur autonomie. Dans un discours très émouvant, Benoît XVI a tenu à montrer sa proximité avec ces personnes qui vivent de plus en plus dans la solitude, le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Vengo tra di voi come vescovo di Roma, ma anche come anziano in visita ai suoi coetanei.
Je viens comme évêque de Rome, mais aussi comme une personne âgée au milieu des siens. D'emblée, le pape a voulu marquer sa proximité avec les hôtes de la maison d'accueil de Sant'Egidio. Des personnes qui sont vulnérables, en particulier lors de ces temps de crise économique. Benoît XVI, qui a élargi son discours à toutes les personnes âgées, « Il est beau d'avoir un âge avancé », s'est-il exclamé en soulignant la valeur du don reçu d'une vie longue, rappelant que dans la Bible, la longévité est le signe d'une bénédiction de Dieu. Le pape a appelé à dépasser les pesanteurs et les tristesses qui frappent parfois ces personnes, dénonçant au passage les maux d'une société qui les marginalise, marquée par la logique de l'efficacité et du profit. Benoît XVI qui a ainsi plaidé pour que les pouvoirs publics s'impliquent plus pour que les personnes âgées puissent rester à domicile, là où elles ont toutes leurs attaches. Dans cet établissement qui se veut une maison familiale, le pape a dressé un constat cinglant : la civilité d'une société se mesure à l'accueil qui est fait aux anciens. Les personnes âgées sont également une richesse pour les jeunes, a encore souligné Benoît XVI après avoir rendu hommage à la communauté Sant'Egidio. Leur existence est comme un livre ouvert, a dit le pape, dans lequel les jeunes générations peuvent trouver de précieuses indications sur le chemin de la vie. Chacun faisons l'expérience à notre âge du besoin de l'aide d'autrui, a-t-il poursuivi. Et ceci est aussi valable pour le pape, a souligné encore Benoît XVI, voulant marquer toujours cette proximité. Avant de prendre congé de ses hôtes, le pape a tenu à rappeler l'exemple de son prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, dont la souffrance et la maladie ont su être source de lumière pour tant de personnes. La prière des personnes âgées peut protéger le monde de manière souvent plus efficace que l'essoufflement de tant d'autres, a-t-il enfin lancé avant un dernier élan de tendresse adressé à ses interlocuteurs. Le pape vous aime et compte sur vous.
Le pape vous aime.
Dimanche soir, un concert a été donné en l'honneur du pape dans la chapelle Sixtine au Vatican. Un concert en forme privée dans le cadre du 11e Festival international de musique et d'art sacré. Parmi les morceaux choisis figurait la Missa Nos Santos, composée par le frère aîné de Benoît XVI, Mgr Georg Ratzinger. Une œuvre qui s'efforce de décliner la foi de l'Église dans la culture actuelle. C'était un extrait du concert donné en l'honneur du pape dimanche soir dans la chapelle Sixtine. Dans le reste de l'actualité, selon un bilan publié ces jours derniers par le réseau Migre Europe, 5 migrants en moyenne sont morts chaque jour aux frontières européennes pendant l'année 2011. Au total, 16 250 migrants auraient péri par noyade, asphyxie, faim, froid ou suicide au cours des 20 dernières années aux frontières de l'Europe. Près de 13 000 ont disparu en mer sur le flanc sud de l'Union européenne, environ 6 000 dans le golfe de Sicile. Depuis quelques semaines, le service des jésuites pour les réfugiés collabore avec Frontex pour mieux protéger les droits humains des migrants. Frontex, c'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières. Sévèrement critiquée par plusieurs ONG, l'agence a finalement mis en place un forum consultatif sur les droits fondamentaux des migrants, composé d'organisations de la société civile et d'institutions de l'Union européenne. Le service des Jésuites a été choisi pour en assurer la coprésidence. Je vous propose un éclairage sur le travail d'un des JRS, celui de France. Il est dirigé par le père Jean-Marie Carrière, qui revient sur le travail effectué par ses équipes dans l'Hexagone.
En France, nous accueillons des demandeurs d'asile à la rue, dans des familles et des communautés religieuses. Environ 60 de familles. Et depuis 3 ans, 100-120 personnes ont été accueillies. Il reste 5 semaines seulement dans les familles, puis ils changent de famille jusqu'à ce qu'on trouve pour eux un hébergement stable qui les sorte de la rue. Cet accueil, cette hospitalité est évidemment très heureux. Les familles en sont très heureuses et les accueillent bien sûr. Et l'idée s'est répandue en France, environ 6 ou 7 villes. Lille, Nantes, Rennes, Lyon, Marseille, Orléans, voilà, quelques-unes.
Est-ce que le nombre d'immigrés, de demandeurs d'asile que vous accueillez est en constante augmentation ces derniers temps ?
Le JRS, Jesuit Refugee Service, a pour vocation d'accompagner des réfugiés et des demandeurs d'asile, pas des immigrés. Donc c'est strictement des demandeurs d'asile. En France, depuis 3 ans, il y a une légère augmentation de la demande d'asile qui se situe maintenant à environ 36-37 000 demandes d'asile en 2011. Et en 2012, ça va monter à 37-38.
Vous vous sentez un peu abandonné par l'État français ?
L'État français a des obligations nationales et internationales par lesquelles il doit héberger et donner des conditions de séjour aux demandeurs d'asile qu'il accepte sur son territoire. Bon, bah, il ne le fait pas. Il y a 22 000 places pour les demandeurs d'asile et ils sont 35 000, donc vous voyez qu'il en manque. Donc il y a des gens qui se retrouvent à la rue et donc nous, de manière temporaire, on essaye de pallier à cette difficulté. Et puis, je veux dire, c'est pas simplement un problème d'hébergement, c'est aussi quand même un problème d'accueil. C'est-à-dire le demandeur d'asile a vocation à rester en France si sa demande d'asile est reconnue par la France, ce que nous attendons avec eux. Et après ça, il faudra qu'ils s'intègrent dans le pays. Donc nous, on joue déjà une sorte d'intégration avant la décision de la France le concernant.
On sait que ces dernières années, la thématique de l'immigration a été une thématique assez conflictuelle en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez également dans votre travail ?
Nous avons eu une rencontre des 14 JRS d'Europe à Paris il y a au début du mois d'octobre. Et le thème était l'hospitalité. Et bien évidemment, nous ne sommes pas complètement naïfs. On sait très bien que les opinions publiques ne sont pas toujours très favorables à l'accueil de l'étranger. Mais je peux vous dire que, quelque part, l'opinion publique n'est pas seulement dans la peur de l'étranger, mais l'opinion publique, les gens ont aussi le goût de l'accueil et de l'hospitalité. Donc, il y a des gens qui bougent.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Le nonce apostolique à Damas a salué l'accord survenu pour unifier l'opposition au régime syrien. Pour Mgr Mario Zenari, il est important que l'opposition s'efforce de parler d'une même voix. Le représentant du Saint-Siège espère que cela permette de parvenir à un compromis et à l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement. La nouvelle coalition, cependant, a déjà fait savoir qu'elle refusait tout dialogue avec le régime et a demandé à la communauté internationale de la reconnaître officiellement comme seul représentant légitime du peuple syrien. Xavier Sartre.
Après 19 mois de guerre civile et plus de 37 000 morts, l'opposition syrienne est parvenue à former une coalition unie et à se doter d'une instance exécutive avec à sa tête un imam sunnite modéré, un ancien député et une femme. Les négociations ont été menées sous l'égide du Qatar et de la Ligue arabe. Saluée par les Occidentaux, cette coalition est censée présenter une alternative crédible au régime de Bachar al-Assad et accélérer sa chute, mais aussi traiter avec la communauté internationale et canaliser les aides. Sur le terrain, la tension ne baisse pas, bien au contraire, note le nonce apostolique à Damas. Mgr Mario Zenari précise cependant que les chrétiens sont respectés et même appréciés. La personne du pape en particulier jouit d'un prestige évident. Ses appels à la fraternité et à la réconciliation peuvent avoir un impact considérable. Selon lui, il faut faire taire les armes, mais aussi libérer les cœurs des sentiments de haine et de vengeance qui se sont accumulés. Ces jours derniers, un émissaire de Benoît XVI, le cardinal Al-Sarraz s'est rendu au Liban pour rencontrer les organisations caritatives catholiques qui œuvrent dans la région afin de favoriser une meilleure coordination de leur travail. Le Vatican a toujours prôné la fin des combats et l'ouverture d'un dialogue national pour éviter la poursuite de la guerre civile.
Je vous le disais en titre, l'Église argentine se défend dans la tourmente. Elle répond à ceux qui lui reprochent sa prétendue complicité avec les horreurs de la dictature. Dans les années 70, elle nie avec fermeté les accusations de collaboration lancées contre des évêques de l'époque. La polémique a ressurgi il y a quelques mois lors de la publication d'une interview de l'ex-dictateur Videla. Condamné pour crime contre l'humanité, ce dernier a affirmé que la hiérarchie catholique de l'époque était au courant des assassinats de disparus. Olivier Tosserie.
La réponse de l'épiscopat à cette nouvelle affaire embarrassante est contenue dans une lettre publiée au terme de leur récente assemblée plénière. L'Église revient sur le contexte sociopolitique de l'époque. Elle rappelle ses nombreuses interventions en faveur des disparus, des victimes de la torture, des personnes incarcérées sans jugement, des enfants nés en captivité arrachés à leur mère, victimes du terrorisme d'État. Elle évoque son mea culpa à l'occasion du jubilé de l'an 2000, dans lequel elle regrettait de s'être montrée indulgente. Elle garde certaines dérives totalitaires et de ne pas avoir fait assez pour défendre la démocratie. Aujourd'hui, elle comprend la douleur et le scepticisme face à une justice incomplète. En revanche, elle rejette catégoriquement les récentes affirmations de l'ex-chef de la junte, Videla, accusant quelques évêques de l'époque d'avoir été informés de la méthode de disparition des opposants politiques appliquée par son régime. Certes, l'Église connaissait la réalité de la répression et elle a payé son tribut. Des prêtres catholiques qui critiquaient le régime ont été eux aussi victimes des escadrons de la mort. Un évêque auxiliaire a été assassiné en 1976. Un an plus tard, des religieuses françaises ont été enlevées et assassinées par des militaires argentins. La liste est longue, mais les évêques reconnaissent que si les années passent, des interrogations demeurent quant à la responsabilité des personnes et des institutions. Une tâche sombre qui pèse sur leur crédibilité. Ils se disent disposés à engager une enquête approfondie. Cette recherche de la vérité, longue et douloureuse, écrivent-ils, nous rendra libre.
Dans les années qui ont suivi le coup d'État conduit par Videla en 1976, des milliers d'opposants ont été emmenés dans des centres de détention secrets où ils étaient torturés et assassinés. Les organisations humanitaires estiment à 30 000 le nombre de disparus. L'Europe se déchristianise et l'islam avance à grands pas. Certains prophètes de malheur tirent la sonnette d'alarme et seraient peut-être tentés de déclencher une guerre de religion. Mais sur le terrain, la réalité réserve parfois des surprises et des occasions de rencontres insoupçonnées. Ainsi, dans certaines écoles catholiques de Belgique, les élèves de confession musulmane sont aujourd'hui majoritaires. Il y a des crucifix dans les salles de classe et pourtant, les élèves musulmans s'y sentent plus libres que dans les écoles publiques, explique le correspondant à Bruxelles du quotidien italien Corriere della Sera. Selon les sociologues et les instituts de sondage, les parents musulmans préfèrent les institutions catholiques parce qu'ils les considèrent comme de meilleure qualité, parce qu'on y vénère un seul Dieu, loin du scepticisme laïque qui caractérise le secteur public, et parce que la diversité des sensibilités et des opinions y est respectée selon la meilleure tradition chrétienne. De plus, sous la protection du crucifix, on y ferme souvent un œil sur l'interdiction pour les filles de porter le voile islamique à l'école. Pourtant, sur la toile, le directeur du secrétariat général de l'enseignement catholique de Belgique, Étienne Michel, a été qualifié de traître quand il a lancé l'idée de permettre aux élèves musulmans des écoles catholiques de suivre un cours de religion islamique, même si le cadre légal l'exclut actuellement. Le corps enseignant et les parents d'élèves sont globalement d'accord. En revanche, l'archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr Léonard, y voit un risque d'ambiguïté et souligne que dans les pays musulmans, on n'organise pas de cours de catholicisme pour les chrétiens à l'école. Étienne Michel affirme que les catholiques veulent construire une société multiculturelle et selon lui, la relégation du religieux dans la sphère publique n'offre qu'une solution au risque de dérive fondamentaliste. Certains de ses détracteurs craignent au contraire que la présence religieuse dans la sphère scolaire n'accentue les différences et les identités. Projecteur à présent sur Jean-Paul Ier, mort le 28 septembre 1978. Il n'aura passé que 33 jours sur le trône de pierre. Son très bref pontificat en fait un personnage méconnu, y compris chez les catholiques. 100 ans après sa naissance, Albino Luciani reste pourtant très populaire en Italie, où on l'a surnommé le pape du sourire. Un congrès sur son héritage intellectuel a été organisé le 8 novembre au Vatican. L'occasion de découvrir des facettes méconnues de Jean-Paul Ier, qui fut aussi ainsi un homme de lettres. Pendant 5 ans, de 1971 à 1974, Albino Luciani a publié tous les mois une lettre dans le mensuel italien Le Messager de Saint-Antoine, édité à Padoue. Un livre vient d'être publié qui rassemble ses missives improbables et poétiques où Luciani s'entretient avec Marie-Thérèse d'Autriche, Dickens ou Peggy, Saint-Luc, Carlo Goldoni, sans oublier Thérèse de Lisieux, Goethe ou Chesterton. Une fois élu pape, Jean-Paul Ier aura l'occasion de laisser percer une vision et une doctrine singulière malgré la brièveté de son pontificat. Ses homélies et audiences générales ont une poésie propre dans un style particulièrement accessible, comme l'explique Sylvie Barnet, professeure à l'Université de Lorraine et à l'Institut catholique de Paris. Olivier Bonnel l'a rencontré au colloque de Rome.
Pour parler de Dieu et pour parler de sa relation avec l'homme, c'est-à-dire faire une théologie au sens propre du terme, on utilise des mots humains. Et pour penser Dieu, on utilise des termes humains. Et à ce titre, Jean-Paul Ier a notamment usé des métaphores féminines et masculines pour pouvoir nommer Dieu. Ce qui donne des phrases tout à fait surprenantes dans ses homélies, comme celle qu'il a prononcée en 1978 au début de son pontificat, en disant « Dieu est Père, plus encore il est Mère ».
Ce sont des images qu'il a donc développées au fur et à mesure de ses audiences générales.
Alors, ce sont des images qu'il a développées au fur et à mesure de ses discours, de ses audiences, de sa catéchèse, et sur lesquelles il revient. Et bien sûr, ces métaphores s'inscrivent dans toute une histoire de l'Église, notamment une histoire de l'Église où on va constamment comparer Dieu à un père et à une mère. Mais en même temps, il y a toute une richesse de l'Église et toute une richesse de la doctrine. Il ne faut pas oublier que la Bible est née dans un contexte de type patriarcal. Ceci explique le fait qu'on utilise des métaphores spécialement masculines. Mais en même temps, il y a comme une prévention de la Bible à dire qu'il ne faut pas féminiser Dieu, même si dans la Bible, on rencontre bien sûr tout un vocabulaire, tout un recours à des images féminines, comme par exemple la poule qui couvre ses poussins ou l'ours qui défend ses petits, pour pouvoir nommer Dieu. Et en même temps, il y a toute une prévention, c'est comme s'il y avait toute une résistance de la Bible à féminiser Dieu, bien entendu, dans un contexte où le monde biblique est entouré de déesses mères. Alors, en même temps, tout ce substrat biblique va être pensé, va être digéré tout au long de l'histoire du christianisme. Et les pères de l'Église, les premiers écrivains chrétiens, vont évidemment revenir sur la comparaison entre Dieu Père et Dieu Mère. Mais à chaque fois, pour bien montrer la concomitance des rôles. Dieu ne peut pas être tout à la fois féminin et masculin, comme dans les discours gnostiques qui font leur apparition à partir du 3e siècle.
Alors, un ouvrage vient de paraître qui recense des lettres que Albino Luciani a écrites pendant les années 70, notamment à des personnages illustres, des écrivains, des penseurs, des philosophes. C'est une phase très méconnue, finalement, et assez originale de Luciani. Est-ce que l'on retrouve justement cette poésie dans ces lettres, ces métaphores, ces images? Qu'est-ce qu'elles disent, toutes ces lettres de cet homme?
Elles montrent d'abord qu'il était un grand lettré et en même temps une attention fine portée aux mots, et notamment portée à la création poétique et littéraire. Et quelque part, cela renvoie aussi au fait qu'il était un novateur du langage, pour oser dire une phrase comme celle-ci, qui ne s'inscrit pas non plus dans une théologie féministe, là où les théologies féminines finalement reconduisent le paradoxe d'un discours qui devrait être un peu plus féminin, pour finalement compenser une naissance du discours biblique et du langage biblique dans une société de type patriarcal. Quelque part, le paradoxe, c'est que ce type de théologie reconduit l'idée qu'il faut plus de féminin là où on aurait mis plus de masculin. Jean-Paul Ier va ailleurs. Il dit que la construction du discours théologique, elle est dans la création, dans l'audace d'un langage neuf, mais un langage neuf qui ne fait pas de Dieu une totalité.
La devise de Jean-Paul Ier, c'était « humilitas », l'humilité. En quoi, justement, les écrits qu'il a laissés, les textes qu'il a laissés montrent cette humilité?
Je répondrai simplement, tout le monde peut les comprendre.
Sylvie Barnet, professeure à l'Université de Lorraine et à l'Institut catholique de Paris. J'ajoute que le congrès du 8 novembre au Vatican a été l'occasion de rappeler les fantasmes qui rôdent encore autour de la mort de Jean-Paul Ier dans des années 70 tourmentées. L'écrivain espagnol Juan Manuel de Prada a ainsi montré en quoi la mort de Jean-Paul Ier avait alimenté une veine littéraire et cinématographique complotiste, qui aime véhiculer une image caricaturale de l'Église que l'on retrouve par exemple chez Dan Brown aujourd'hui. Une production traduction qui ne doit pas faire oublier, a souligné le romancier espagnol, que le magistère des pontifes résiste malgré tout à toutes les tempêtes, que ce soit aujourd'hui sous Benoît XVI ou lors du pontificat éclair de Jean-Paul Ier. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis.